Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois Michel Baumann. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors Michel Baumann, j'ai eu beaucoup de mal à le définir. On va dire que c'est un homme multicarte ou polyvalent, en tout cas curieux, organisateur d'événements à caractère social, c'est comme ça qu'il veut se définir aujourd'hui, mais on va voir qu'il a fait beaucoup d'autres choses. Alors Michel, comment est-ce que l'histoire a commencé? À savoir, quel petit garçon étiez-vous?
J'étais un petit garçon qui a eu de la chance d'être élevé avec amour, déjà, qui a eu effectivement un bobo dans sa vie de garçon, de jeune garçon, parce que son papa est mort à 9 ans. Et puis, finalement, en résilience de tout ça, eh bien, ça m'a fait comprendre passablement de choses. Donc, je remercie la vie de toute façon de m'avoir fait vivre ce début d'expérience comme ça.
Alors, vous avez été élevé par votre maman?
J'ai été élevé par ma mère.
Vous aviez des frères et sœurs?
Fils unique.
Fils unique.
Oui.
Alors, votre maman travaillait ou pas ou...
Elle travaillait, elle a bien ramé, la pauvre.
Oui, mais sûrement, voilà. J'imagine. Voilà. Alors, des souvenirs d'enfance?
Des souvenirs d'enfance.
Vous étiez où?
J'étais à Genève, mais Genève. La plupart de ma famille était dans la banlieue parisienne.
D'accord. Donc, pourquoi Genève, alors?
Genève, simplement, parce que ma mère habitait du côté d'Aubervilliers à une époque où on se prenait des bombes, c'est-à-dire à une très triste
époque.
Pendant
la guerre,
oui. Elle a connu son mari là-bas, et ensemble, ils ont décidé, parce que mon père était suisse, de venir habiter à Genève.
D'accord. Et vous êtes né à Genève?
Et je suis né à Genève.
Vous étiez à l'école à Genève?
J'étais dans une école publique à Genève, mais très rapidement, j'étais petit gros à lunettes à l'époque.
Un petit gros à lunettes, hein, ouais. C'est plus du tout ça. Hein. Et ouais. Alors, vous étiez bon élève ou mauvais élève?
J'étais pas très bon élève. J'étais pas très bon élève. Puis pas apprécié, semblerait-il, de ma maîtresse qui me traitait de petit gros à lunettes, crapaud.
Ah, bah c'est sympa ça, au moins.
Donc, mère m'a mis dans une école privée, ouais. Qui était l'externat des Glacis, qui était une école catholique.
D'accord.
Et là, j'ai été confronté à un autre monde très rapidement. C'est que, bon gré mal gré, je me suis rendu compte que les gens qui étaient là, très souvent, leurs parents les amenaient en Jaguar, en voiture de luxe. Et que moi, j'avais le sentiment d'être un petit peu à part de tout cela, vu que ma maman, pour me payer cette école, elle faisait des ménages.
Oui, mais ça, c'est sympa quand même, quand on y pense. Hein.
Oui.
Et ça donne une force aussi, parce qu'il y a de l'amour, effectivement.
Effectivement, oui.
Alors, un souvenir marquant de votre jeunesse, Michel?
Ma jeunesse, peut-être un souvenir marquant, c'est... Oh mon Dieu. J'ai fait une année de petit séminaire à Saint-Louis, au Collège Saint-Louis. C'était l'année de l'inauguration de ce centre-là. Et j'ai vécu des choses très enrichissantes et aussi des choses très tristes là-bas.
Très triste.
Très triste parce que, vous savez, non seulement j'étais pas un très bon élève, mais j'aimais pas me lever de bonne heure.
Ah.
Alors, on se retrouvait des fois à 3 ou 4 sous la douche en même temps pour pas se faire punir en arrivant en retard au petit déjeuner. Et je sais pas quelle idée, on m'a donné un nom qui était que je connaissais même pas ce que cela voulait dire. On m'a traité d'homosexuel et on m'a viré de là parce que
ah ouais, c'est charmant.
Et moi j'étais cherché.
Ce voilà.
C'est ma mère qui m'a expliqué ce que c'était. Et très vite donc j'ai pu apprendre aussi parce que ma mère avait cette douceur et ce respect qu'un homosexuel c'était pas une maladie, c'était simplement quelque chose de différent.
Gens, voilà, c'est des gens qui ont des goûts différents, c'est
ouais,
tout.
Absolument. Par contre, elle a été très violente vis-à-vis de la direction de ce collège, évidemment. Donc voilà, ça c'est une expérience qui m'a effectivement marqué à cette époque, parce que j'étais dans ce collège pour me socialiser quelque part, et en fait j'étais viré pour une raison qui n'était pas...
Pas la bonne.
Pas la bonne. Et même si elle avait été celle-là, j'aurais pas trouvé ça juste.
Alors, je crois que vous avez été employé d'un laboratoire de physique au CERN, donc vous avez fait des bonnes études.
Alors là, oui, j'ai eu un immense intérêt, dans le sens où je suis, comme vous l'avez relaté, quelqu'un de curieux. Et là, j'étais vraiment satisfait. Il y a deux choses que j'ai gardées du CERN, et qui me servent tous les jours aujourd'hui, au-delà du métier. C'est que quand on a un projet fort et qui a du sens, on peut réunir des gens de toute compétence, donc de tout métier, de toute culture et de toute religion. Si le projet nous dépasse, eh bien, il met tout le monde d'accord. Et c'est là que j'ai appris cela. Et je remercie encore le CERN de cette époque, en tout cas, de me l'avoir appris.
Et alors, puis, comment avez-vous débarqué au CERN? Parce que c'est pas évident, ça. Le CERN, c'est vraiment une...
Bah, c'était la première année c'est aussi où ils avaient décidé, ils avaient décidé de former des bricoleurs 5 étoiles pour être aidants dans le cadre des expériences. Alors, j'ai eu la chance de faire de la micromécanique, j'ai eu la chance de faire du soufflage de verre, de l'électroplastie, enfin un tas de bouts de métier comme ça. Qui m'ont enrichi à chaque fois parce que des personnes qui étaient très dévouées, parce qu'en plus c'était la première expérience, j'étais dans le premier jet, donc c'était pas encore très très affirmé comme de façon de nous enseigner tout ça, mais avec énormément de cœur. Donc je me rappelle aussi que c'est grâce à ces formations-là quelque part que j'ai un langage maintenant au niveau du métier des métiers en général qui fait que dans beaucoup de corps de métier j'arrive à comprendre ce qui s'y passe.
Alors, on a laissé le petit garçon qu'on nommait Crapaud, qui est devenu sous l'œil de certains homosexuels qu'il n'était pas, mais bon, on a vu, c'est pas du tout quelque chose de péjoratif, c'est simplement des goûts que vous n'aviez pas. Comment vous êtes arrivé tout à coup à l'université? Vous avez fait comment alors pour faire ce grand saut vers le CERN?
Ben, simplement à l'époque, ma mère m'avait dit, écoute, j'avais déjà été faire 2-3 stages, puis à chaque fois on m'a dit non, vous pouvez faire mieux que ça dans votre vie. Donc, j'allais regarder pour des apprentissages.
Et qui disait ça? C'était des...
Les gens qui voulaient me tester. Ils me disaient, non, ça, vous pouvez faire mieux. Ça serait dommage que vous passiez votre vie là-dedans. Je dis, bon, OK. Et puis, finalement, c'est un orientateur à la ville de Genève qui a dit, bah, écoutez, il y a une expérience là. Vous allez certainement pouvoir regarder ce qui vous fait vraiment plaisir. C'est le CERN. C'est comme ça que je suis rentré. Simplement, c'est un apprentissage. C'est pas l'université. Je suis pas physicien. Par contre, je suis un bricoleur 5 étoiles.
Un bricoleur 5 étoiles, c'est magnifique ça. On va écouter un morceau de musique, évidemment, sur les musiques que vous avez choisies.
Je vous remercie.
Donc, on va écouter Mongo Santa Maria Afro Blue. Thank you.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine avec Michel Baumann. Michel Baumann, organisateur d'événements à caractère social, employé de laboratoire physique au CERN et qui surtout se définit bricoleur 5 étoiles. Ça, j'aime beaucoup cette expression, bricoleur 5 étoiles. C'est votre curiosité ?
Totalement. Totalement. J'ai eu cette formation qui n'est plus la mienne aujourd'hui, mais qui, encore une fois, m'enrichit de la façon dont j'ai pu rencontrer des gens lors de ce magnifique apprentissage. Des gens qui venaient de tant de pays, de tant de cultures, et qui étaient tous sous la bannière d'un seul projet. Et ça, c'est enrichissant de comprendre que quand les choses nous dépassent et qu'on prend un point de vue générique, où on regarde bien au-delà de son nombril, mais sur ce que vraiment on a à faire, les choses deviennent vraiment dynamiques.
Alors, comment est-ce que vous êtes passé, j'allais dire, de cet employé de laboratoire physique au, au bricoleur 5 étoiles ?
Alors, bricoleur 5 étoiles, c'est la curiosité. C'est la curiosité, Je crois que j'ai les deux côtés du cerveau, même si ça se vérifie pas aujourd'hui, qui sont bien connectés ensemble. Mais il paraît qu'on a même un troisième maintenant. Ça serait le ventre, l'estomac. Donc bon, ça se voit pas à la radio, mais je crois que je peux le démontrer de ce côté-là. J'ai un cerveau qui tient sa place. Donc j'ai appris tout cela au CERN, et comment je suis arrivé à ce que je fais aujourd'hui, c'est que, je crois que c'est un peu comme tout le monde à un certain âge. Il y a un moment où on se pose...
Vous avez quel âge, Michel ?
J'ai 64 ans.
Ah ben, vous ne le faites pas.
Hein. Je vous remercie.
L'œil bleu est très vif.
Donc, l'œil bleu vient des origines bretonnes de ma maman.
D'accord.
L'idée, c'est que il y a un moment dans la vie où j'ai décidé d'essayer de rassembler un petit peu ces diverses compétences que j'ai eues à travers différents cheminements sur ma vie. Et je dis, voilà, j'arrive à un âge où j'ai envie de restituer quelque part. J'ai eu la chance d'avoir une vie tellement riche, aussi des blessures, mais des blessures qui ont été en résilience. Je me suis dit, je vais essayer de synthétiser tout ça sur quelque chose qui peut, humblement, mais quand même laisser une trace.
Alors, avant qu'on parte vers cette dimension-là, dont on va bien sûr parler, c'est même pour cette dimension-là que je vous ai demandé de venir nous parler de ce que vous faites et de qui vous êtes, Michel. Je voudrais que vous expliquiez d'abord, alors, pourquoi jugez-vous cette vie très riche et avez-vous eu envie de remercier et de restituer ?
C'est dans mes croyances. Je suis quelqu'un qui aurait beaucoup de peine à croire au hasard.
D'accord, c'est dans vos croyances. C'est-à-dire que vous avez ressenti quand même avoir une vie très riche, différente de celle de beaucoup de gens, en quelque sorte.
Très riche, c'est
par rapport à quoi ?
Par rapport à ce que je pouvais peut-être éventuellement envisager quand j'étais plus jeune.
D'accord. Donc une vie réussie, en quelque
réussie,
sorte.
Réussie, en tout cas en termes de bonheur et d'échange.
Vous avez une vie personnelle, vous êtes marié, pas marié, vous avez des enfants, pas d'enfants. Racontez-nous un peu au personnel.
Alors, je suis marié à une femme qui m'aime et à qui j'essaie de rendre tout cela de la meilleure façon du monde, qui m'a fait cadeau de sa fille quand on s'est marié, parce qu'elle avait déjà une enfant, qui à l'époque avait 9 ans. Et puis, donc, j'ai eu le droit à un magnifique cadeau. Il y en a eu deux d'un coup. Donc, c'était un pur bonheur.
Vous avez des jumeaux après ?
Et puis après, ensemble, on a amené sur cette planète un fils qui aujourd'hui est remarquable et on est très, très fiers.
Donc, en tout, vous avez 4 enfants ?
En tout, Marie-Claire et moi sommes restés des enfants dans notre cœur.
C'est beau ça.
Voilà.
Que fait-elle, votre femme ?
Alors, elle était assistante sociale. Elle a passé beaucoup de sa... Pas ce que je dis comme bêtise. Non, c'est assistante médicale.
Médicale, d'accord.
Je fais un petit lapsus. Parce qu'il y a aussi beaucoup de social dans
son médical,
travail.
Dans le médical, bien sûr. Qu'elle
a fait cela
pendant
passé 30 ans. Elle est en gynécologie obstétrique. Et aujourd'hui, elle est à la retraite. Mais qui dit retraite, comme beaucoup de gens, c'est un moment aussi où on commence à se dire « Tiens, je pourrais faire ce que j'ai envie quand je le veux. » Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on se retrouve devant un
sur
verre.
Sur le canapé,
on ne se retrouve pas devant un verre à moitié vide.
Voilà, exactement. Alors, vous avez tout à l'heure évoqué brièvement des blessures. Des blessures, vous pouvez en parler ?
Ben, j'en ai pas eu tant que ça, des blessures. Il y a eu, je vous l'ai dit, je vous l'ai confié, la mort de mon papa très jeune.
J'avais 9 ans. Vous aviez 9 ans, ça, c'est vraiment une grande blessure.
Ça faisait un bobo. Le fait, après, que dans ce séminaire, effectivement, on m'a fait subir des choses dont je n'étais pas responsable. Et même si je l'avais été...
Des jugements durs.
Je dis nauséabonds, je dis aujourd'hui vis-à-vis de cela. Des blessures, mais j'en ai eu comme tout un chacun. Mais j'ai de la peine à les définir aujourd'hui, tant finalement elles ont été résilientes.
D'accord. C'est-à-dire que vous avez toujours réussi à remonter la pente et à les transformer.
Mais bien sûr.
Ce sont devenus des expériences.
Et j'ai encore des soucis, bien sûr, aujourd'hui, comme tout un chacun, et j'en aurai d'autres. Mais quelque part, j'essaye de les accueillir. Il y a du sens. C'est soit par mes erreurs, soit parce que je suis confronté à une réalité. Et puis encore une fois, quand je suis confronté à une réalité, j'ai le sentiment que ce n'est pas un hasard.
C'est vrai. On va écouter une autre musique que vous avez choisie. Joey Zawinul, Introduction to Tower of Silence.
With pleasure.
Cité Genève.
Radio Cité Genève. Viviane De Witte.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine avec Michel Baumann. Michel Baumann qui est organisateur d'événements à caractère social, qui a été ou qui est, on l'a vu, génial, on va dire comme ça, bricoleur 5 étoiles. Et puis, qui aujourd'hui a eu envie de restituer les bonheurs qu'il a reçus. Alors, ça prend quelle forme, Michel ?
J'aime, et j'ai eu besoin depuis tout jeune, de rencontrer des gens. Quand on n'a pas de papa tel qu'on aimerait en avoir, eh bien, on cherche des pères. Des gens qui vont tout à la fois vous dire quand c'est bien, quand c'est pas bien. Qui vont quelque part être aidants pour vous revaloriser, simplement dire, ben voilà, ça, tu peux faire ça, tu peux être ça. Et là, j'ai compris que c'était très important et très enrichissant d'écouter les autres. Donc, c'est de cette façon-là que je suis arrivé tout d'abord dans la Société internationale des droits humains, dans laquelle je suis vice-président pour la section suisse en ce moment.
C'est pour ça, vous les avez découverts comment ?
Ah, c'est eux qui m'ont découvert.
D'accord.
On pourra en parler, okay. On pourra en parler parce que le bricoleur 5 étoiles est quelqu'un qui, dans l'enseignement, a laissé quelques traces aussi.
Alors, vous avez fait de l'enseignement aussi ?
Oui, je l'ai fait dans deux écoles. La première école, c'était magique. J'avais vraiment envie, dans le profil pédagogique de cette école, qui était une école active, d'y proposer mon enfant. J'avais pas les finances pour l'assumer. Et gentiment, on m'a proposé, puisque j'étais un déboureur dans le domaine des multimédias, d'enseigner dans cette école ces technologies du multimédia en échange de l'écolage de mon fils.
Ça, c'était en quelle année, alors ? Parce que débourrage des multimédias, ça, c'est au moins 25 ans.
29 moins 5, voilà.
Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est passionnant, ça.
Alors là,
un effet de votre curiosité.
Mais oui. Et ça m'a amené, d'ailleurs, à présenter le projet qu'on avait avec nos élèves, tout à la fois au Salon du Livre et du Multimédia, et y compris dans le Palais fédéral, quelques 2-3 ans après que j'aie commencé, pour démontrer que ces technologies-là étaient quelque chose qui était en devenir et qu'il fallait que les conseillers nationaux, qui étaient quasiment tous présents, prennent connaissance de ces technologies. Dès lors, quand vous avez des enfants de 7-8 ans qui vous disent « Mais attendez, c'est plus facile pour nous de communiquer avec des copains au Québec ou ailleurs, et puis ceux de Zurich, de Berne ou de Lugano, on peut pas ? Qu'est-ce qui se passe ?» Voilà.
C'est
dans cette aventure-là que j'ai amené les élèves. Et ce qui m'a amené à faire partie d'une fondation qui s'appelait Fondation Alliope Suisse, qui était à la base, dont le président était François Leub. Et quand il m'a vu dans tous ces exercices-là, il m'a proposé de rentrer dans cette fondation. C'était une époque, c'était les années 90-95, il y avait un taux de chômage assez considérable à Genève. Et puis on avait décidé tout à la fois d'être aidant pour des chômeurs qui avaient envie de monter une entreprise, de leur démontrer que soit que c'était possible, soit qu'ils avaient simplement une idée, mais qu'ils ne sauraient peut-être pas la gouverner, parce qu'on sait très bien qu'on peut être un bon cavalier, mais il faut avoir le bon cheval, ou si
c'est
on
vrai.
Est un bon cheval, il faut trouver le bon cavalier. Donc notre objectif aussi, parce que je faisais partie de... C'était à l'époque, c'était l'association PME à Genève, et on avait, je crois, passé 700 membres. C'est par le truchement des compétences de tout cela qu'on arrivait à ficeler des projets sympathiques pour des gens qui, pour certains d'entre eux, ont encore leur entreprise aujourd'hui.
Michel, vous avez fait le compte de toutes les associations que vous avez soit fondées, soit auxquelles vous avez participé, vous avez été président, vice-président ou tout au conseil. Vous avez fait un peu ce calcul ou jamais, ou c'est arrivé comme ça, successivement ?
C'est arrivé sur mon chemin de vie, simplement. Et jamais c'est l'étiquette qui m'a occupé ou préoccupé. C'est simplement, encore une fois, peut-être la soif de rencontrer des gens et puis d'être créatif avec eux, qui le sont au minimum autant que moi dans bien des cas.
Et puis d'aider.
Et puis d'aider, bien sûr. Ouais. La vie, elle m'aide. Alors pourquoi pas faire la même chose avec ses semblables ?
Alors, celle qui vous a le plus marqué, celle qui demeure, parce qu'il y en a quand même sur le trajet où vous avez dû quand même être moins présent.
Celle
On peut pas tout faire en même temps,
malheureusement. Celle qui m'a le plus marqué, c'est probablement, et c'est pas donc un hasard de nouveau, celle qui aujourd'hui encore donne du sens à ma vie.
Alors on va en parler un petit peu, on va la citer. Parce que ça, c'est quelque chose justement de très admirable et de très porteur. Vous en parlez ?
C'est l'association Un repas pour notre avenir.
Voilà.
Qui, en 1999, déjà avait organisé une table d'un kilomètre 400 sur la rade de Genève. Je m'excuse auprès des automobilistes sur le pont du Mont-Blanc à l'époque, qui ont très mal vécu cela.
De toute façon, ils sont tout le temps bloqués. Alors, un peu plus, un peu moins,
maintenant,
moins que ça
façon,
soit pour la bonne cause.
C'est systématique, c'est clair. Et c'était pour soutenir des projets pédagogiques, autant chez nous que dans certains pays en voie de développement. Et on l'avait répété à Palexpo l'année suivante. Et puis le bébé a grandi, il n'avait plus besoin de notre soutien à ce niveau-là. Donc j'ai arrêté et repris en 2012. Et ça, c'est une belle histoire. C'est une très belle histoire en 2012.
Alors en 2012, on va en parler tout à l'heure parce que c'est une longue histoire. Mais je voudrais aussi compléter votre portrait en disant que vous êtes musicien. Alors ça, c'était... Petit déjà ?
Mais oui, vous savez, justement, au CERN, je donnais des cours de flûte douce à l'amphithéâtre.
Qu'est-ce que c'est que la flûte douce ?
C'est une flûte qui, au contraire de celle que je joue maintenant, qui
est
traversière.
La traversière,
elle est en poirier, et puis elle est beaucoup plus simple à jouer quand on est un gamin.
Quoi.
Mais pas que pour les gamins, puisqu'au CERN, justement, à l'amphithéâtre, je donnais des cours à des ingénieurs, des physiciens. Et un jour, il y en a un qui m'a dit une chose extraordinaire, qui a aussi probablement beaucoup influencé le cours de ma vie. Il m'a dit, tu vois Michel, toi, tu exprimes tes ressentis, tu es connecté comme nous. La différence entre toi et moi, c'est que toi, ce que tu as compris, ce que tu ressens, tu le fais passer par des sons. Nous, on le fait passer par des chiffres.
D'accord.
Mais c'est la même source.
C'est beau. On va écouter encore de la musique, bien sûr. James con Yellow Band, Samba Gila.
Thank you.
Radio, Cité Genève.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Michel Baumann. Michel Baumann, qui est un organisateur d'événements à caractère social, qui a été employé au CERN dans un laboratoire de physique. On vient de voir aussi qu'il est musicien. On a découvert ce qu'était la flûte douce. Et puis on a écouté une musique latin jazz ou rock méditerranée. Alors, c'est votre groupe, si j'ai bien compris.
Je suis cofondateur de ce groupe à une époque où j'habitais Formentera.
Alors, Formentera, Espagne, c'est Formentera, un endroit merveilleux.
Formentera, les îles Baléares, beaucoup plus tranquille qu'Ibiza à l'époque. Et puis là, un moment, oui, encore une fois, un moment génial.
Donc, vous avez vécu 5 ans là-bas, je crois, Michel.
J'ai vécu 5 ans là-bas. Mais la première année, quasiment consécutivement, sans presque sortir de là, puisque j'avais rencontré un pianiste, Christian Fugelberg, avec qui on avait commencé à jouer en duo. Et puis d'autres musiciens se sont greffés. Et finalement, c'est un groupe qui a tourné dans toute l'Europe, dans les plus beaux festivals, pendant 6 ans.
Alors, qu'est-ce qui vous a fait revenir à Genève?
Ce qui m'a fait revenir à Genève, c'est le moment où on a décidé de plus jouer ensemble, voilà. Sans animosité, quoi que ce soit. On avait fait le tour d'une belle histoire, on a refermé le livre.
Vous êtes séparés, mais vous avez repris après, non?
Alors, on s'est séparés à ce moment-là, mais encore
séparés.
Absolument. Encore il y a quelques heures sur la plaine de Plapalais, samedi dernier, eh bien, nous étions en train de jouer ensemble, en trio, parce qu'il y en a un qui est aux États-Unis en ce moment, et puis l'autre qui a dû rester à Leverkusen en Allemagne. Mais on a invité un ami de Genève à jouer avec nous. Donc, la musique nous a reliés pour la vie, je crois.
Alors, il y a quelque chose dont je voudrais parler parce que Michel Baumann égale The Mill à Genève aujourd'hui. The Mill, qu'est-ce que c'est?
Alors, The Mill, déjà, c'est un nom où des fois on me dit, ouais, mais pourquoi, si on défend les produits locaux, puisque c'est ça dont il s'agit, on a un nom anglais? Simplement parce que c'est un événement qui se passe simultanément, cette année comme l'année précédente, comme depuis 2012, depuis sur 4 continents, et chaque année, il y a entre 30 et 60 lieux sur la planète qui partagent ce repas avec nous le même jour, avec le même message. Les paysans sont les seuls garants de notre énergie vitale.
Aidons-les à nous nourrir correctement, vous avez dit.
Waouh, bravo. Eh bien, vous l'avez épluché,
madame. Oui, oui, mais parce que je pense que c'est vrai et que c'est formidable, oui. Et ça a forcément rejoint quelque chose qui est une de mes préoccupations. Je pense que c'est essentiel.
Il y a un message sous-jacent et qui est d'actualité vis-à-vis des votations récentes en Suisse. C'est à chaque fois qu'on achète un produit, on vote pour notre avenir.
Exactement.
Et ce message-là, il est vrai chez nous, mais il est vrai partout maintenant. C'est un message générique qu'on se doit d'appliquer. Si on sait qu'en Suisse, il y a 3 fermes par jour qui mettent la clé ailleurs que là où elle devrait être. Et que, par exemple,
tous les suicides des paysans français, des fermiers français.
600 l'année dernière, sans parler des dizaines de milliers en Inde ou quoi que ce soit, chaque année. Donc, il y a vraiment une prise de conscience à avoir. Alors, est-ce qu'on s'attelle maintenant à reconsidérer nos paysans de façon logique, ou est-ce qu'on enrichit des multinationales qui, dans bien des cas, en plus paupérisent les populations sur le terrain et ont des effets pervers, comme vous l'avez signalé, jusqu'à chez nous? Et une partie des gens qui traversent la Méditerranée ou qui aimeraient la traverser aujourd'hui, ce sont des gens qui ont été simplement expropriés de leurs terres au profit de la monoculture.
Alors, expliquez davantage, parce que je pense que nos auditeurs ne sont pas tous au fait de ces questions.
Alors, aujourd'hui, on est dans une situation où, chez nous, on peut vivre à 50% de notre production en Suisse. Donc, ça veut dire que nous sommes de toute façon dépendants de production extérieure. C'est à nous de choisir. Je prends un de nos partenaires qui est Magasin du Monde, qui nous a offert du café pour 700 personnes, si on avait besoin, et on a été 700. Ce sont des gens qui sont très sensibles et qui font très attention de où vient ce café. Donc c'est ce qu'on appelle du fair trade, du commerce équitable. Moi, je suis persuadé que si on se donnait la peine maintenant de fédérer un peu mieux toutes ces organisations en Europe qui font du fair trade, on arriverait à distribuer plus de ces produits dans des catégories, pour des catégories de gens qui sont défavorisés et qui le sont des fois, et bien entendu, parce qu'on les a exploités auparavant. Je crois qu'une façon saine de rééquilibrer ce qui doit être juste aujourd'hui est de se fournir en priorité chez ces gens-là. Mais attention, pas pour les retransformer en big monoculture bio ou que sais-je au profit d'eux. Il faut rester respectueux aussi de ce grenier, par exemple, qui est celui de l'Afrique, qui est exploité maintenant par des multinationales, par des pays, etc., où en plus, on fait ce qu'on appelle du dumping, c'est-à-dire qu'on va leur vendre du riz moins cher que ce qu'ils produisent eux localement pour qu'ils arrêtent de produire. Et que petit à petit, ces gens n'ayant plus de boulot, eh ben on les exploite. Ça, c'est ce qui se passe dans la réalité. Alors, il y a encore des gens aujourd'hui qui, hélas, croient. Et c'est ma foi, on ne peut pas leur reprocher. C'est une croyance. Mais il faut bien comprendre que quand on arrête, dans bien des cas, d'acheter ces produits-là qui viennent des monocultures, c'est pas qu'on rend des gens plus pauvres. C'est le contraire qu'on devrait faire.
Comment est-ce qu'on pourrait, parce qu'il y a eu des, il y a eu des démarches de fait pour le commerce équitable. Je cherche le nom de la plus célèbre et à laquelle avait collaboré quelqu'un qui est l'un des administrateurs de la Fondation des chaînes qui patronne cette radio, Paola Ghilani. Vous la connaissez peut-être de nom.
De nom.
Et comment ça se fait qu'on n'ait pas réussi à faire plus et mieux et que ça soit plus connu?
Alors, encore une fois, quand on achète un produit, on vote pour notre avenir. Tant qu'on préférera des achats bling-bling et qu'on sera pressé parce que j'ai pas le temps de faire mes courses correctement à droite et à gauche, j'ai pas le temps de cuisiner correctement, etc. Et puis surtout, je ne consacre plus 25 à 30% de ce que j'ai pour vivre pour la nourriture. Aujourd'hui, en Suisse, on est à moins de 7%. Ne nous étonnons pas si on se nourrit mal, si les assurances maladie augmentent aussi à cause de cela, parce que ce qu'on paye pas d'un côté, on le paye de l'autre. 7%, comment voulez-vous avoir des produits de qualité?
C'est vrai. On va écouter un peu de musique, parce que là, on va déprimer.
Ah ben, vous m'avez demandé des explications.
Non, mais on les veut, ces explications. Alors, c'est un hommage à Denis Favrichon qu'on va écouter maintenant.
Denis Favrichon, c'est un membre de notre groupe, c'est le contrebassiste qui d'ailleurs fait ses instruments lui-même. Et puis, c'est vraiment un coup de cœur. C'est un ami, j'en ai peu dans ma vie. Et la façon dont il joue vous démontrera que c'est quelqu'un de cœur.
On l'écoute.
Thank you.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2, dans La bouteille à moitié pleine, avec Michel Baumann. Michel Baumann, dont nous avons dit les nombreuses casquettes qu'il a eues dans sa vie, mais qui aujourd'hui est engagé dans un combat. Les paysans sont les seuls garants de notre énergie vitale et dont lait à nous nourrir correctement. C'est votre combat d'aujourd'hui, Michel.
Je suis que le miroir d'une réalité qui m'oblige à aller dans ce sens. J'y suis sensible, certes, mais ce qui est important, c'est que les nombreux convives, par exemple, qui viennent chaque année à notre repas, le soient également, que ce soit ici ou ailleurs.
Alors, ce repas, on va en reparler. Reparlez-nous, s'il vous plaît, de The Meal à Genève, mais bien aussi dans les nombreux pays où il a eu lieu en même temps, parce que ça, c'est passionnant.
Ce qui est passionnant, c'est de découvrir qu'en fait, ce que l'on préconise à Genève, aujourd'hui, on le préconise partout. Et que de plus en plus de gens sont conscients que notre avenir dépend entièrement de cette forme d'énergie qui doit être la plus saine possible.
Alors, le repas qu'il y a eu a réuni combien de personnes, vous avez dit ? 700 ?
Là, j'ai pas le chiffre exact encore, mais c'est autour des 700. C'est une moyenne que l'on a à peu près chaque année à Genève.
Et c'était sur la plaine de Plainpalais.
C'était sur la plaine de Plainpalais. Et je remercie tout autant les nombreux partenaires, les paysans qui nous ont fait des cadeaux, parce qu'il faut pas se leurrer. En ce moment, c'est les récoltes. Ils ont autre chose à faire que de venir nous dire bonjour. Par contre, ils nous font des magnifiques cadeaux. Je pense, si vous me donnez l'autorisation d'en citer quelques-uns. Il y a les vergers de Saint-Loup qui nous ont filé 80 litres de jus de pomme. Il y a la ferme Courtois qui nous a filé des lentilles et puis des pommes. Il y a, mon Dieu, ils se bousculent tellement il y en a.
Mais je pense que ces gens-là, nous sommes une radio associative, donc nous ne faisons pas de publicité. Mais je pense qu'ils rentrent dans notre mission de faire connaître les gens qui servent les bonnes causes.
Mais oui,
donc on peut parler de ces gens.
Alors je vous en remercie parce que franchement c'est spontanément ils se rendent compte qu'on essaie de les soutenir au mieux et ils font ce geste. Donc ça me touche profondément de voir que ça nous donne la certitude que ce que l'on fait est juste. Voilà.
C'est vrai. Et alors ce repas pour si nombreuses personnes, donc c'est se réunir en grand nombre simultanément en nombreux endroits de la planète pour partager un repas, c'est bien ça, et soutenir les paysans. Donc les paysans d'ici, bien sûr, mais aussi les paysans de ces nombreux pays. Alors, je crois qu'il y a eu je ne sais combien de pays, j'ai pas la liste, mais je sais qu'en France, c'est à Montpellier.
C'est à Montpellier, c'est dans diverses villes. Il y en a qui viennent chaque année, il y en a qui viennent tous les 2-3 ans, ça dépend.
Voilà. Mais il y a aussi c'est assez extraordinaire, en Afrique beaucoup, et puis d'autres endroits de la planète.
Alors en Afrique, on a la chance de connaître par les réseaux que je pratique avec la Société internationale des droits humains et d'autres, de connaître une association qui s'appelle l'AVD, qui est l'Association des volontaires pour le développement durable, qui, elle, travaille sur une douzaine de pays francophones en Afrique. Et ils ont pris cela très au sérieux. Et c'est eux qui coordonnent, grâce à quelqu'un qui est à Damaso, à Dakar, qui coordonnent un petit peu tout cela au niveau africain.
Alors j'ai vu qu'il y a aussi, bien sûr, en Espagne, au Burundi... Au Népal, en fait, il y a 70 pays qui se mettent à table.
Alors, j'ai jamais compté ça en pays, j'ai compté ça en lieu et en culture.
D'accord.
Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de voir que d'ores et déjà maintenant, il y a des résultats positifs, entre autres des transferts de compétences, des compétences des hauts plateaux de Bolivie, d'une technologie qui s'appelle Walipina, ce qui permet de faire 4 récoltes par an à 4000 mètres d'altitude en mettant en enterrant quelque peu les jardins, les serres. Et puis de se rendre compte que quand on discute avec nos amis népalais que j'ai été visiter, du coup ils se disent mais on pourrait faire la même chose chez nous et ils le font. Donc on fait du transfert de compétences, de la prise de conscience d'un tas de problèmes et puis on soutient aussi grâce à nos convives des projets, des petits projets qui sont toujours dans les objectifs du développement durable et là on a un suivi qui est cohérent également sur ce qu'on fait.
La prochaine étape, qu'est-ce que c'est, Michel ?
La prochaine étape, elle est très importante. L'année prochaine, nous allons soutenir un projet d'un monsieur que l'on a déjà soutenu en 2012, qui avait organisé une marche pour 100 000 Dalits et Adivasis en Inde. Et il y a contrat qui a été signé avec l'État, et grâce à cela, c'est 1,5 million familles de fermiers qui ont retrouvé une terre. Alors évidemment, à l'échelle indienne, c'est pas grand-chose, 1,5 million, mais tout de même, ça c'est fait. Alors on contrôle toujours, parce que le gouvernement actuel peut-être a d'autres préoccupations, mais il faut savoir qu'en 2019, c'est-à-dire en octobre l'année dernière, il y a une marche de 150 personnes environ qui vont partir d'Inde et qui vont venir pour le 26 septembre 2020 pour The Mill, sur la plaine de Plainpalais, accompagné de marcheurs qui viendront également de toute l'Europe. Donc l'année prochaine, grâce à un bureau dont je fais partie, qui s'appelle Jay Jagat, c'est également le nom de la marche, nous sommes en train d'organiser cet événement qui de plus, et je le tiens à souligner, est soutenu par une motion qui a été déposée à la ville et à l'État de Genève par une quasi-totalité.
Il faudra venir nous en reparler en temps utile, Michel.
Alors, soit moi, soit quelqu'un d'autre du bureau. Je ne suis pas tout seul, loin de là, heureusement.
Mais nos micros vous sont ouverts, sachez-le.
C'est vraiment aimable, ça me touche.
Non, non, ce n'est pas une amabilité. C'est une toute petite participation. Mais étant donné qu'en podcast, Radio Cité Genève est écoutée sur la planète entière, dans la francophonie, et bien sûr, et beaucoup en Afrique aussi. Donc, c'est très important, ce que nous disons aujourd'hui. C'est important, ça a plus d'écho que simplement à Genève. C'est important que vous le sachiez aussi. Est-ce que vous avez un appel à faire ou une demande à faire ou quelque chose? Parce que vous êtes vraiment un bienfaiteur de l'humanité.
Mon Dieu. Le premier appel, ça serait de pas forcément considérer que je fais ma part, j'essaie de faire ma part comme tout un chacun, comme vous aujourd'hui en m'invitant, comme vous qui passez la musique que je vous ai proposée. Donc, si chacun fait juste sa part, et est conscient que plutôt que se dire qu'est-ce que je peux faire moi tout seul, de toute façon j'y arriverai pas, il y a quelque chose qui s'appelle l'intelligence collective qui est en marche. Cette intelligence collective, elle est là maintenant dans une situation qui est difficile. On dit oui, mais on va dans le mur. Attention, on est dans le mur, mais il est mou. Il est encore temps de faire en sorte que l'humanité puisse survivre dignement et que nos enfants puissent être fiers de nous. C'est encore le moment. Après, ça risque d'être un petit peu plus bizarre. Donc, avec tout l'amour que j'ai pour la vie, que ce soit la vôtre, madame, ou la mienne, ou celle de ceux qui nous entourent,
il faut... Viviane, mon cher Michel.
Viviane, voilà, si j'ai un message à dire, c'est cela. L'espoir, et surtout, ne dites pas qu'on a fait des fautes, on a fait des erreurs. On a mal appris ce que c'est qu'une faute et une erreur. Une erreur, c'est quelque chose qui nous aide à avancer parce qu'on apprend des choses. Une faute, c'est quand on a fait une erreur et qu'on décide de la répéter.
Alors, personne n'a fait de faute. Ça pourrait devenir une faute. Il ne faut pas que ça devienne une faute, en fait.
Donc, ne tombons pas dans la faute. Restons dans ce qui nous amène à la résilience parce que la résilience, elle est joyeuse.
Mon cher Michel, on arrive, hélas, parce qu'on vous écouterait des heures au terme de cette émission. On va vous remercier avant de se quitter. On va aussi écouter Zaz avec une belle annonce, Je veux, qui est évidemment ce que vous voulez et ce que vous avez développé tout au cours de cette émission. On va aussi remercier Olivier Steinmetz qui nous permet de faire cette émission. Et un dernier mot, vous dites souvent, merci la vie.
Merci la vie.
À bientôt Michel, au revoir.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. c'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre.